le corps était allongé. Marseille, 1930. À l'évêché, le commissariat central de Marseille, le service de médecine légale avait été installé dans les combles. J'avais été cordialement invité par le responsable des lieux, le docteur Georges Béroux, que j'avais rencontré lors d'une précédente affaire. C'était un jeune homme taillé en colosse, à qui des lunettes de myope donnaient pourtant un petit air professoral. Son repère faisait penser à un immense bloc opératoire, avec de la faïence partout, des bacs en inox et de l'éclairage électrique dernier cri. Sur une table roulante, au beau milieu de la pièce, un corps gisait sous un drap maculé de taches de fluide corporel, ce qui ne présageait rien de bon quant à l'état du cadavre. Après avoir longuement essuyé ses lunettes, le docteur Béroux commença son compte-rendu.
« Voici le sujet. Mâle, européen... Retrouvé au petit matin au nord de la ville, dans un terrain vague, à côté de l'épave calcinée d'un aéronef. Pas mal, n'est-ce pas ? »
Il saisit le linceul d'une main et me jeta un regard.
« Je suppose que vous avez l'estomac bien accroché ?»
Je hochai la tête, l'air sûr de moi. Mais je me préparais au choc que reçoit toute personne équilibrée face à un cadavre. À la façon du prestidigitateur révélant un tour, le bon docteur tira sur le drap. Je ne pus retenir un hoquet devant le corps brisé et partiellement carbonisé.
L'individu est âgé de 35 à 40 ans. Probablement un aristocrate, si on en croit ses ongles manucurés. Il a subi plusieurs fractures lors de l'accident. Le dos, le ventre et les jambes sont marqués de fortes brûlures.
Je m'approchai pour mieux voir, malgré ma répugnance. Mince, le visage osseux, le nez busqué surmontant de longues moustaches élégantes, le cadavre avait effectivement tout de l'aristocrate, à quelques détails près. Étrange tatouage, mais ce n'est malheureusement pas la première fois que j'en vois de semblables.
Moi, je n'en doutais pas. Et c'est d'ailleurs pour vos connaissances en occultisme que je comptais sur vous ce soir.
Sans relever la flatterie, j'entrepris un examen des marques en pointant du doigt chacune de mes découvertes. Ici, on reconnaît facilement des annotations en alphabet énochien. Les milieux ésotériques adorent ça. Je n'en maîtrise pas toutes les arcanes, mais il s'agit sans doute de sorts de protection. Pas facile d'être catégorique cependant, avec les brûlures qui en ont effacé la moitié. Je poursuivis mon inspection jusqu'à un symbole bien connu qui m'arracha un cri de surprise. « Oh mais !» Je me retournai vers Béroux. Ce mort, avait-il un chapeau avec lui ? Un haut de forme ?
On retrouve rarement ce type d'accessoire dans un accident d'avion. Et quand bien même, qui porte encore ce genre de couvre-chef de nos jours ?
Les membres de la Société des Vieilles Têtes avec de longs chapeaux. Et cette marque, là, au fer rouge, c'est le symbole de flétrissure de cette secte étrange. Peu au fait de l'univers de l'ésotérisme, Béroux me jeta un œil curieux. Je lui résumai alors en quelques mots ce que je savais de la plus secrète des sociétés occultes. Il m'écouta, l'air grave, sans le moindre signe d'ironie. Même lorsque j'évoquais les étonnantes facultés du buveur de foie et du grand silence. Lorsqu'un membre des vieilles têtes est frappé d'indignité, il est marqué pour signifier son bannissement à vie. Nous avons donc affaire à un personnage pas des plus recommandables. Et il ne s'est peut-être pas écrasé dans un champ de lui-même. Lorsque j'eus terminé mon exposé, Béroux se massa le menton avant de grommeler.
Je comprends que mes collègues inspecteurs vont devoir mettre les pieds dans des choses pas jolies jolies. Mais ce n'est plus de mon ressort. Rangez ce pensionnaire au frais, c'est tout ce que je peux faire pour l'instant.
Il tira le drap sur le cadavre et poussa la table roulante jusqu'à une chambre froide, dont la porte dissimulée au fond de la mansarde avait échappé à mon attention. Au moment où il refermait le frigidaire sur son nouveau locataire, les lumières vacillèrent et s'éteignirent.
Allons bon, encore une panne de secteur.
À tâtons, le légiste sortit une lampe de mineur à batterie électrique. Paradoxalement, son faisceau rendait les ombres plus inquiétantes encore.
Espérons que ça ne dure pas. Je n'ai pas eu le temps d'équiper la chambre froide d'un groupe électrogène.
Soudain, un grondement sourd et régulier, presque cyclique, monta progressivement jusqu'à faire vibrer les murs. Alors que j'échangeais un regard étonné avec Bérou, une cascade de lumière bleue éblouissante creva la verrière. Un projecteur, depuis indirigeable, on a de la visite. Je sortis mon petit Remington de ma veste et regrettai immédiatement d'avoir laissé mon Webley d'ordonnance Brittany dans ma garçonnière parisienne. Une seconde plus tard, le plafond de verre éclatait. En un instant, plusieurs silhouettes sombres se laissèrent glisser dans la mansarde le long de filins. Une dizaine d'individus se déploya dans la pièce avant que je ne puisse réagir. La retraite nous était coupée. Plein de ressources, le bon docteur se saisit de deux flacons posés sur une desserte et les lança aux pieds des envahisseurs. Un briquet allumé les suivit aussitôt. L'éther s'embrasa instantanément, créant une belle panique parmi les hommes en noir. Bérou me saisit par le bras.
« Allons dans la chambre froide. Il y a un monte-charge. »
À l'intérieur de ce grand réfrigérateur, il y avait la place de loger 5 ou 6 cadavres. Seul pensionnaire pour le moment, le mort au tatouage y était tout à son aise. Au fond, une porte étanche, cadenassée, donnait sur notre voie de salut. À tâtons, Bérou commença à s'escrimer sur le verrou de l'ascenseur, à la lueur de sa lampe. « Dépêchez-vous ! Ils vont finir de se dépêtrer de votre incendie. »«
Si vous croyez que c'est facile avec cette lumière... »
Soudain, un grincement tout proche, dans mon dos. Je me retournai d'un bloc, pistolet brandi, prêt à faire face à l'intrus qui nous avait suivis. Le corps qui, quelques minutes plus tôt, était allongé sur la table roulante, se tenait debout au fond de la chambre, vêtu de ses seuls tatouages et de ses blessures. Malgré ses os brisés, il avançait vers nous, lentement, tordu et boitant, le dos courbé bizarrement sur le côté. Ses dents, découvertes dans un rictus morbide, brillaient à la clarté de la lampe. Les caractères sur sa peau luisaient, eux aussi, mais d'une lumière intérieure, rougeâtre, malsaine.
Ah !
En le voyant à son tour, Bérou poussa un cri d'horreur. Terrorisé, moi aussi, je vidai mon Remington sur ce cadavre ambulant. Il titubait à chaque impact, mais il ne ralentit pas sa marche vers nous. Chaque mouvement lui arrachait un craquement osseux répugnant quand une de ses fractures se déplaçait. Sa silhouette se redressait à chaque pas, un peu plus humaine, mais non moins monstrueuse. Désarmé, dos au mur, Bérou et moi ne pouvions rien faire d'autre que de regarder ce mort-vivant s'approcher de nous. Lorsqu'il fut à distance de nous toucher, quand son odeur putride vint nous agresser les narines malgré l'air glacial, il s'arrêta pour nous considérer longuement de ses yeux vitreux. Il se tourna finalement vers moi, desserra les mâchoires, d'où sortit un filet de voix rocailleux à l'accent britannique.
« Théodore Campas, je présume. Lord Spoonrattle, pour vous servir. On m'a beaucoup parlé de vous. Vous transmettrez mes amitiés au grand silence. »
Devenu quantité négligeable à ses yeux, il nous oublia pour aller pousser la porte de la chambre froide. Dans le laboratoire, les intrus avaient formé une sorte de haie d'honneur pour accueillir leur maître. Chacun portait au cou un artefact qui brillait dans le noir à l'unisson des tatouages du mort. Une échelle de corde pendait par le trou de la verrière, éclairée par la lumière du projecteur bleuté. Spoonrattle la rejoignit d'un pas qui avait déjà perdu sa raideur cadavérique. Au moment de saisir l'échelle, il se retourna alors vers nous et nous héla comme de vieilles connaissances.
« Au revoir, chers amis. Navré de vous laisser, mais nous nous reverrons. Soyez-en persuadés.
» Il éclata d'un rire sardonique et s'enfuit par l'échelle, suivi par ses acolytes. Le projecteur s'éteignit et les bruits des pales du dirigeable s'éloignant dans la nuit fut tout ce qui restait de cette présence monstrueuse. Et c'est ainsi, grand silence, que je rencontrai votre pire ennemi pour la première fois. Et malheureusement, comme il me l'avait promis, ce ne fut pas la dernière. C'était le corps était allongé. Un conte dans l'univers de la Société des Vieilles Têtes à long chapeau. Écrit par Olivier Gechter, narré et mis en son par Vincent Corlet, avec la participation de Florent Mounier dans le rôle du docteur Bérou. Produit par Georges Fauveau et Vincent Corlet pour l'association Son mot à dire.